Et puis, on va peut-être se regarder de près. Tiens, tant qu'à faire, on se tient de près, puis on se regarde de près avec Daniel Rioux parce que, justement, hein, on se compare, puis on est envieux, puis voilà.
Oui, c'est pas drôle ça, parce que c'est pas drôle, puis maintenant c'est humain, puis c'est naturel aussi, parce qu'on a commencé, comme je mentionnais plus tôt, on a commencé très jeune à se comparer. Tiens, on se comparait à son grand frère, à sa sœur, ou encore à des amis à la garderie. Ensuite, à l'école, on en parle, hein, on se compare, les petits voisins. Puis c'est à l'adolescence, dans une quête éperdue d'identité et de conformité, que ça va mettre le feu aux poudres, justement, ce type, cette comparaison aux autres. Et il y a aussi de rares exceptions près jusqu'à l'âge adulte que ça calme pas la donne. Même adulte, on se compare. La comparaison, c'est propre à l'homme, donc c'est pas une découverte là. C'est éminemment social, qui a besoin de s'évaluer. Hein, l'homme a besoin de s'évaluer, de se situer, de se définir par rapport aux autres. Mais il y a un prix à payer. Mais à quel prix? Alors, comme je mentionnais, la comparaison, elle est naturelle depuis les premiers temps de la vie. Pourquoi se comparer? C'est un processus d'identification qui est nécessaire à la construction de soi. Et vous mentionnez, on parlait en hors d'onde, qui peut se transformer justement en jalousie et pire encore, en envie, le niveau qui est supérieur à la jalousie. C'est ce qu'on mentionne dans l'article. Par exemple, pourquoi est-ce que ma sœur va à Paris alors que moi je vais en Gaspésie? Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ma collègue paraît-elle 10 ans de moins que mon âge et pas moi? Vous avez plein de sujets là, de comparaison. Vous pouvez vous comparer au niveau du revenu, de l'image, des capacités intellectuelles, de la culture, du mode de vie, mais aussi à l'intérieur du couple, de la famille, des amis, etc. Tout ce que l'on est, tout ce que l'on a est susceptible d'être comparé à ce que sont et qu'ont les autres. Bien, voyez-vous, le son et le on, hein?
Ouais.
Bien souvent, on le reconnaît, pour mieux se prouver que ces autres sont mieux lotis que soi, qu'ils sont plus beaux, qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus performants et que, décidément, la vie est bien injuste.
C'est un peu cruel, tout ça, parce que dans les réseaux sociaux, présentement, parce qu'on va y arriver, mais tu sais, les gens se comparent à des... icônes de beauté qui ne sont pas nécessairement naturelles, on va y arriver, oui, je suis certain.
Justement, puis peut-être qu'ils payent le prix, puis qu'en tout cas, ils sont peut-être pas plus heureux que ça, finalement. Hein?
Ouais.
Puis la comparaison ne peut qu'engendrer, je trouve ça beau, des passions tristes. C'est ce que déplorait déjà Spinoza. Et il disait, il ajoutait, l'aveugle, tant qu'il ne mesure pas L'aveugle, tant qu'il ne se mesure pas à ceux qui voient, ne se sent nullement imparfait. Il rajoutait ça, le philosophe Spinoza. Est-ce qu'on est tous rivaux? Sauf que sur des personnalités bien ancrées, le même mécanisme peut permettre d'affirmer sa singularité, hein, il y a des gens, de mesurer sa chance. Et ça dépend en réalité de nos prédispositions de départ à l'auto-dévalorisation, mais également des autres auxquels on choisit de se comparer. Hein, il y a des gens qui manquent de confiance, hein, comment qu'on se valorise. Des semblables, il y a des pairs, des êtres un peu comme nous, mais meilleurs que nous ou qui ont plus que nous. Donc ça, c'est la comparaison ascendante, c'est-à-dire que des gens qui sont plus beaux, plus forts, plus riches que nous. Il y a aussi, on parle aussi de comparaison descendante qui, elle, c'est qu'on choisit de se mesurer à des personnes moins belles, moins riches, moins chanceuses dans la vie. Ça, c'est la comparaison descendante pour justement regonfler un peu son narcissisme qui est défaillant.
Oui.
Hein, voyez-vous, hein? Donc, il y en a qui vous regardent toujours de haut, mais bon. Quand je me regarde, justement, vous le mentionniez hors d'onde, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. C'est ce qu'aurait dit Talleyrand. C'est dans tous les cas, la force est de constater que la référence au grand autre, Dieu, la morale ou des principes philosophiques, a cédé la place à tous les petits autres que sont nos contemporains, autant d'alter ego, aussi démunis que nous face à une société qui est productive, qui est fondée sur la réussite matérielle et la performance, où tout se quantifie, se chiffre et s'évalue. Alors, on l'a ici dans cet article-là. Moi, je pense à ça. Là, on se compare, c'est un article d'ici, mais dans d'autres pays, dans certaines cultures, c'est peut-être pas la même chose. Ça pourrait pas se rapporter, mais enfin. Donc, à qui aura la vie la plus belle? Hein, le plus bel appartement, les plus beaux enfants. Et justement, c'est renchéri à travers la mécanique des likes. Vous savez, les fameux likes sociaux, des réseaux sociaux. Nous sommes tous notés et tout se mesure et tout se compare. Et même en tant que psy, le psy qui nous parle, qui écrit Michael Stora, il dit même en tant que psy, on nous décerne des étoiles. Comme pour les restaurateurs, même les médecins. Hein, vous regardez, hein, on consulte des sites, on peut avoir des étoiles, même les livres ont des étoiles sur Babelio, je pense à ça tout à coup. Alors, on est à l'ère de la gamification. C'est quoi ça, la gamification? J'ai cherché. On pourrait dire aussi la ludification. C'est-à-dire, ça veut dire intégration de mécanismes de jeu, comme des émojis, des points, des badges et des likes. C'est un peu un jeu qu'on fait, mais c'est un jeu qui a un certain prix en quelque part. C'est le venin des réseaux sociaux, justement. C'est une spécificité de notre époque et c'est que sur les réseaux sociaux, on cherche de la comparaison sociale avec quelque chose, avec quelqu'un qui soit n'existe pas ou qui est complètement idéalisé, résume Mathieu Cassotti, qui est professeur de psychologie. Les protagonistes sont toujours jeunes, hein? Ils sont beaux en général, miraculeusement déridés, ils sont défatigués, filtrés, retouchés, conformés aux normes esthétiques et aux valeurs en vigueur. Alors la consommation, la richesse, la beauté, la réussite, hein. On peut regarder le tapis rouge hier des Oscars, hein, puis on dirait, oh, mon Dieu, qu'il est bien habillé, puis c'est donc beau. Mais qu'on se compare à des gens comme ça, des fois, malheureusement. Si l'on se compare systématiquement à l'image idéalisée de ce que sont les autres, l'effet sur l'estime de soi peut être catastrophique, poursuit le chercheur, et sans compter le retour des likes sur ses propres posts, parce qu'on attend des autres aussi un feedback, y compris sur de l'intime, et ce retour forcément impacte notre questionnement. C'est-à-dire, quand on envoie des messages, on dit, mon Dieu, personne qui m'a répondu. Ça doit être ordinaire, ce que j'ai posté. Bon, ben voyez-vous, ça joue sur votre estime, sur votre valeur à vous. Puis, dans le fond, c'est artificiel. Ouais. Nos fameux amis Facebook sont finalement autant de dangers pour notre stabilité émotionnelle et de menaces pour notre bonheur individuel. Le plus pernicieux, on conventionne, mais Michael Stora, lui, c'est le rôle des influenceurs qui nous piègent dans une sorte d'effet miroir. Ils nous tutoient, ils se filment dans leur chambre, on peut les commenter, les liker. Ils nous donnent aussi l'illusion de proximité, on est un peu comme eux. Et contrairement à nos anciens modèles, acteurs, chanteurs, stars, avec qui se nouait une relation plus verticale, on cherchait à marcher comme une telle, à tenir sa cigarette comme un tel, mais on les regardait de loin. Donc ce rapport intime-là avec les gens à travers les réseaux sociaux change un peu plus la donne. Les influenceurs sont eux-mêmes piégés dans la course à l'idéalisation. Chacun de leurs followers cherche à correspondre à l'image en faux self qu'ils leur suggèrent. Et finalement, on aboutit à un monde de clones qui se comparent entre eux et développent des sentiments de jalousie puis d'envie qui peuvent provoquer de la colère, voire de la haine, notamment en ligne. Mais il y a au royaume du faux et de l'artifice. On redoute une chose, et c'est à venir, c'est la concurrence déloyale de l'intelligence artificielle, et c'est face à ces performances vertigineuses que risquent d'être évaluées dès demain nos propres compétences. Hein? Ouais. Combat perdu d'avance, à moins que dans un sursaut de sens commun, nous réussissions enfin, non pas éliminer la comparaison de nos vies missions, qui semble impossible, mais en faire un usage lucide, sain et mesuré. Cesser notamment de l'utiliser comme une arme d'autodestruction et de compétition toxique, mais comme un précieux outil pro-social. Nier l'importance de la comparaison sociale est en soi un mécanisme de défense. La solution consiste plutôt à apprendre à vivre en prenant suffisamment conscience de ses mécanismes pour réguler son impact émotionnel et trouver d'autres sources d'estime et de construction de soi que seulement le regard des autres, ou alors choisir des regards bienveillants. Hein? Oui. On pourrait surtout apprendre à se comparer à la seule personne intéressante, soi-même.
Ah, mon Dieu, se choisir, comme dirait l'autre.
C'est se un choisir, peu... comprendre les mécanismes. Alors maintenant, il faut comprendre les mécanismes, maintenant que j'ai lu cet article, comprendre les mécanismes qui conduisent à être jaloux, envieux, réfléchir à la question de l'estime de soi, de la confiance en soi dans les autres. Ça pourrait nous permettre à la fin d'être heureux de la réussite d'un autre que soi. Et ça, et l'estime, et renchérir, être plus s'estimer davantage. Donc, c'était la raison de cet article, parce qu'on est tous touchés par ce « je me compare, donc je suis ».
Tout à fait. On va terminer tout de suite ici, parce qu'on a une grosse émission chargée, mais merci beaucoup d'avoir été là ce matin, puis merci pour ce partage très intéressant. À la semaine prochaine, Daniel.
À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.